Dans les années 2000, une nouvelle approche apparaît qui est dans la continuité de ce problème de l'ancrage des symboles dans la perception, qui est l'approche développementale, la robotique développementale. L'idée est de s'intéresser vraiment au processus de développement de l'intelligence, au processus du développement de la construction de représentation de l'environnement par le système. Donc on est vraiment au cœur de la question de l'ancrage des symboles. Un système où on va partir avec un minimum de structures préexistantes et qui va apprendre. Donc on prend comme modèle fondamentalement l'enfant, le nouveau-né, pour lequel il y a évidemment une part d'inné, mais qu'on essaie de réduire au minimum dans le système, qu'on essaie de mettre un minimum de choses préconçues dans le système, et par interaction avec l'environnement, par interaction sociale, donc le rôle crucial de l'interaction avec les agents pour canaliser en fait la difficulté du problème de l'ancrage, on ancre des symboles qui ont un intérêt pour communiquer, et on communique parce qu'on veut résoudre ensemble des buts. Plus de l'apprentissage au sens large, il reste évidemment la possibilité au système d'apprendre de manière statistique des informations récurrentes dans l'environnement, bien qu'on est capable de construire petit à petit un système de plus en plus intégré avec enfin, l'environnement physique et son environnement social. D'une certaine manière, on passe comme archétype de l'objectif de recherche. Entre les années 70 et cette approche de la robotique développementale, on passe du joueur d'échecs, qui était voilà, le Graal de la robotique, tel qu'on l'imaginait en fait dans ces années-là, où on avait une myopie de la recherche sur l'importance du raisonnement, de la cognition et du traitement symbolique et de la formalisation du raisonnement, donc le joueur d'échecs, on était l'archétype, vers un modèle qui est aujourd'hui l'enfant. C'est amusant d'ailleurs de constater que dans le cinéma, on retrouve les mêmes thématiques. Dans les années 70, on a HAL 9000 avec 2001, l'Odyssée de l'espace, un robot froid, calculateur, désincarné, et il n'a pas de corps. Enfin, c'est un vaisseau spatial, mais la dimension corporelle et l'interaction avec l'environnement est minimale. Et puis, à l'autre extrémité, on a des films comme Artificial Intelligence, où en fait le robot est un enfant, il est émotionnel, il est ancré dans son environnement. L'essentiel de ses motivations viennent d'interactions sociales. Le problème de l'ancrage des symboles, quand on le plonge dans un cadre beaucoup plus large, il ne concerne pas uniquement l'ancrage de mots associés à des percepts visuels, c'est aussi l'ancrage de la représentation de son propre corps. Quand un nouveau-né arrive et commence à fonctionner, il n'a pas une cartographie, en tout cas, on part du principe qu'il n'a pas une cartographie de son corps détaillée, et il va apprendre en faisant ce qu'on appelle du motor babbling, comme avec les mots où on essaie de prononcer des mots, ba, bo, oui, bo, et on essaie un petit peu les combinaisons possibles pour découvrir l'environnement sonore disponible, eh bien l'enfant va découvrir l'environnement moteur disponible en essayant des commandes un peu aléatoirement qui génèrent des mouvements de bras. Et ces commandes, elles vont être traitées de manière statistique en analysant des corrélations, par exemple entre certaines commandes moteurs dans le bras, même si le système ne sait pas qu'il s'agit du bras, a priori, et certains stimuli visuels dans le champ de vision. Et petit à petit, une certaine corrélation va pouvoir apparaître entre un ensemble de commandes moteurs dans le bras et le fait que je vois ma main, en réalité. C'est ça le percept visuel. Et quand je vois un objet et que je vois ma main simultanément, je vais pouvoir commencer à agir sur cet objet. Et donc la notion de préhension va pouvoir être ancrée dans l'environnement et dans le corps du robot. Donc on a ici une approche vraiment très 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 bas niveau où on démarre avec un système qui ne connaît même pas son propre corps et qui voit le monde simplement à travers des commandes moteurs qui ne sont pas cartographiées a priori, mais que le système va cartographier progressivement en utilisant on va dire des modèles mathématiques d'informations conjointes par exemple, où il va détecter des corrélations entre des signaux, et puis va petit à petit construire un modèle de son corps, de son environnement proche, de son environnement distant. Ça a donné lieu d'ailleurs, cette approche de robotique développementale, à des développements de robots spécialisés pour ce type de recherche. Par exemple, le robot iCub à Gênes, qui a été démarré en 2004. Je crois qu'il y a une vingtaine d'exemplaires aujourd'hui dans le monde. Et c'est un robot qui est explicitement conçu comme un enfant, morphologiquement, et qui est destiné. Donc, les laboratoires qui travaillent avec ce robot sont vraiment dans l'axe de recherche de la robotique développementale et essaient vraiment de construire de manière graduelle les capacités motrices du robot dans un premier temps, et puis ensuite les capacités d'interaction physique avec l'environnement et sociale. Et on a des gens qui travaillent sur l'émergence du langage, par exemple, dans ce courant. Un autre axe qui est intéressant dans le cadre de la robotique développementale, c'est le lien qui peut y avoir avec les gens qui travaillent sur la psychologie cognitive, c'est-à-dire les personnes qui s'intéressent à, on va dire, cartographier, comprendre, répertorier l'enchaînement des capacités cognitives de l'enfant dans la petite enfance, qui semble être assez régulier, c'est-à-dire en gros les enfants apprennent des capacités cognitives sur la persistance des objets, sur le comportement des fluides, des solides, la distinction entre objets animés et inanimés, etc., l'orientation de l'espace, ce genre de choses. Ils apprennent dans un certain ordre qui est à peu près le même pour la plupart des enfants. Et donc ça, c'est une source intéressante d'inspiration. Parce que si on est dans une approche développementale, il est assez possible que cet enchaînement, on le retrouve aussi dans le robot. Alors, c'est pas non plus nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que bon, la nature ait fait un certain choix, mais que d'autres choix soient possibles. En attendant, ça nous fournit une cartographie dans un paysage qui est plutôt, sinon, assez obscur. Et ça a le mérite peut-être de rapprocher un peu plus cet axe de recherche de l'approche scientifique dont je parlais au début, puisque là, on peut imaginer, dire, bon, le phénomène naturel que j'observe et dont je vais essayer de donner un modèle, c'est le développement cognitif de l'enfant. Et le modèle, c'est mon robot et le système qui l'anime. Et si j'arrive à reproduire ce qui se passe dans le modèle, éventuellement à faire des prédictions, c'est-à-dire à découvrir que le modèle s'étend à des comportements que j'observe par ailleurs chez l'enfant, eh bien, j'aurai, au sens scientifique, un modèle acceptable du développement cognitif de l'enfant. Donc, c'est un lien assez intéressant, assez fort, avec des gens historiquement comme Piaget, Vygotsky ou Tomasello, qui sont des gens qui travaillent vraiment sur la cartographie du développement cognitif de l'enfant.